Professeur à l'Université de Tours et directeur de l'unité de recherche CNRS à l'Université de Poitiers, et qui va nous parler de plasticité neuronale et cognitive dans le vieillissement humain. Merci Michel.
Bien, merci Mohamed, et merci donc de m'avoir invité à participer à cette journée et de pouvoir intégrer donc dans cette journée l'aspect, je vais dire, de la psychologie cognitive. Qui est une autre approche, davantage comportementale, même si on a vu qu'il y a du comportement, des apprentissages et de haut niveau chez l'abeille. Forcément, il y en a chez l'humain. Et donc, moi, je vous parle de la psychologie cognitive. Et ce qu'on peut dire en introduction par rapport à ce qui a été dit jusqu'ici, c'est que la psychologie cognitive, dans les 15 dernières années, s'est ouverte également à la neuroimagerie. Donc la psychologie est connue comme une science comportementale. Il y a une approche expérimentale. Ça a donné les concepts, les méthodes de la psychologie cognitive. Et depuis un certain temps, on peut dire que la psychologie cognitive n'est plus simplement une science expérimentale. C'est-à-dire aussi une science qui, à côté d'observer le comportement, regarde aussi le cerveau, notamment en activité. Et donc, je voudrais vous montrer ici, aujourd'hui, ce qui s'est passé dans le domaine du vieillissement ces dernières années. Et une observation, et partir d'une observation assez inattendue qui a amené les psychologues cognitivistes travaillant dans le domaine du vieillissement à s'interroger et à rejoindre un peu la notion et les concepts de neuroplasticité et de plasticité cognitive. Disons au sens large le concept de plasticité et voir comment cette observation qui porte plus, je crois que le concept a été dit tout à l'heure, sur les phénomènes de réorganisation neuronale qui ont amené les psychologues à s'interroger sur le fait que le vieillissement n'est peut-être pas simplement un phénomène délétère. C'est aussi, comme les tumeurs, un phénomène qui frappe très tôt, hein, mais peut-être pas seulement un phénomène délétère, mais avec des possibilités de réorganisation au niveau du cerveau et au niveau de l'organisation comportementale qui permet peut-être une certaine protection contre lui-même. Hein. Et la question, bien sûr, après, c'est de se demander jusqu'où et comment. Donc, le premier point qu'on peut commencer pour commencer par donner une vision un peu sociétale du vieillissement pour dire pourquoi en fait on se préoccupe de vieillissement à notre époque. Bon, bah, vous le savez, dans les sociétés dites développées, le phénomène de la masse de personnes âgées augmente en importance liée à la durée de vie. Et on estime par exemple qu'en Europe, il y a 15% de personnes qui ont plus de 65 ans. On sait aussi que les personnes âgées sont une force de frappe économique, donc non négligeable pour un certain nombre de métiers portés là, du coup, par des individus plus jeunes. On sait aussi que l'allongement de la durée de vie va faire que le temps passé à la retraite, c'est-à-dire en non-activité professionnelle, eh bien, est allongé. Et on peut dire qu'on peut atteindre pratiquement maintenant à la retraite jusqu'à 25 ou 30 ans. Et donc, un objectif essentiel pour nos sociétés est de réussir le vieillissement, c'est-à-dire d'être bien pendant le vieillissement, on va dire au sens large. Au niveau de la recherche, ça va être d'identifier et de comprendre à la fois les processus qui sont délétères, ce qu'on va appeler des pertes ou des déficits dans le domaine du vieillissement, mais aussi d'identifier et de comprendre les possibles ressources protectrices du vieillissement. Alors, on va parler beaucoup de plasticité. Je ne vais pas rentrer forcément dans le détail, mais pour dire qu'on reconnaît à l'heure actuelle qu'il y a deux types de plasticité. Une plasticité neuronale qui correspond au fait que le cerveau peut se transformer sous l'impact de l'expérience, sous l'impact du développement, et qu'on peut voir tout au long de la vie des phénomènes d'adaptation, voire de compensation, soit suite à de nouvelles expériences, soit suite à des lésions, soit un phénomène naturel lui-même qu'est le vieillissement. La deuxième forme de plasticité, et donc on verra plus particulièrement, on parlera de ça puisque c'est issu de la neuroimagerie, on verra plus particulièrement ce qu'on appelle la réorganisation neuronale, c'est-à-dire une redistribution d'une certaine façon, comme ça a été employé, le terme a été employé tout à l'heure par Rémy Guilvin, une réorganisation ou une nouvelle distribution neuronale qui peut se révéler être comme une ressource permettant à l'individu de se protéger contre son propre vieillissement. Et on parle aussi de plasticité comportementale et par extension de plasticité cognitive, qui sont aussi donc des réorganisations qui peuvent être des changements, on le verra, mais aussi des réorganisations au niveau cognitif sous l'effet de l'expérience et également en réaction au vieillissement. Et donc la grande question à l'heure actuelle, bien qu'on n'ait pas une réponse définitive sur la question, mais les recherches s'engagent dans cette orientation, c'est de savoir ce qu'il en est dans la plasticité au cours du vieillissement, ce qui n'est pas très habituel parce que généralement on parle de plasticité, notamment associée au développement, soit dans la vie adulte comme des réactions à la pathologie, mais est-ce qu'elle existe toujours à la fois dans ses aspects neuronaux et dans ses aspects comportementaux au cours du grand âge. Alors pour donner une image simple de la plasticité sans faire un tour exhaustif, on a parlé tout à l'heure de connexion synaptique ou de contact synaptique. Voilà un exemple de ce qu'est la plasticité développementale entre un cerveau à 6 mois in utero et à 6 ans. Donc vous voyez que le principal développement, ce qui va fortement évoluer, c'est les contacts entre les unités de base du cerveau que sont les neurones. Donc ça va avoir des conséquences bien sûr sur le volume et sur la masse du cerveau. Toujours pour fixer rapidement le concept de plasticité neuronale, revenons à des expériences princeps de base historique, hein, les premières qui ont été réalisées par Rosenzweig dans les années 60, où il a montré l'impact de l'environnement au moment du développement de l'individu, donc l'impact de la situation d'élevage sur des souris, donc élevées isolément dans un milieu appauvri, qui pour les souris est la situation classique, je dirais, de laboratoire, est quelque chose d'avantage écologique qui ressemble plus à ce qu'on pourrait trouver dans les situations de vie sauvage de la souris, qu'on a appelé ici milieu enrichi, et donc qui est enrichi de deux ou trois points de vue, c'est-à-dire il est enrichi par rapport aux contacts sociaux, il est enrichi également par rapport aux contacts physiques avec un certain nombre d'objets, et donc les apprentissages à la fois sociaux et apprentissage sensorimoteur que l'animal peut faire. Ces expériences ont montré, et c'est le principal résultat, pour aller vite, donc que les animaux élevés en milieu enrichi avaient par exemple un certain nombre d'indicateurs du cortex qui montraient donc une neuroplasticité, et donc ici qui se traduit par une augmentation du poids du cortex, par rapport aux animaux élevés en milieu isolé. Donc, qui montre que donc la plasticité cérébrale dépend à la fois du développement de l'individu, donc du développement normal, mais dépend également de l'interaction de cet individu, de son développement dans un milieu particulier. J'attire particulièrement votre attention sur la barre du milieu, où là, les animaux ont d'abord été élevés en milieu isolé, puis ensuite élevés en milieu enrichi. Et on voit ici que dans la deuxième phase, donc à l'issue de ces deux phases isolées puis enrichies, ils récupèrent pratiquement le poids de cerveau des animaux qui ont été élevés très tôt en milieu enrichi. Donc ça montre là, cet histogramme là du milieu montre que la possibilité de récupération à un âge beaucoup plus avancé continue d'exister. Pardon, oui, je vais faire un effort. Alors, ça a une traduction également au niveau comportemental. Au niveau comportemental, ce qu'on voit, c'est que cette augmentation du poids du cerveau, donc qui signifie forcément, probablement, augmentation des contacts synaptiques et tout ça a été montré. Et on a même montré que ces expériences de milieu enrichi, milieu appauvri, avaient une incidence sur la neurogénèse, la construction de nouveaux neurones. Au niveau de l'apprentissage, là aussi, pour aller vite, donc on voit que les animaux élevés en milieu enrichi apprennent plus vite, atteignent un niveau de maîtrise supérieur, donc puisqu'ici, c'est le nombre de centimètres parcourus dans un labyrinthe pour trouver la solution, et ici, ce sont le nombre d'essais, on voit que les animaux élevés en milieu enrichi apprennent beaucoup plus vite et se stabilise à un niveau inférieur. Donc, impact sur le cerveau, impact au niveau du comportement. Donc, on a un exemple très classique de ce qu'on appelle la plasticité neuronale et la plasticité comportementale. Alors, la plasticité existe-t-elle chez l'homme et existe-t-elle à un âge avancé? Je vous disais tout à l'heure, on n'a pas complètement la réponse à l'heure actuelle pour l'âge avancé. Par contre, grâce à la neuroimagerie, et notamment à l'IRM ici, et à l'imagerie par résonance magnétique, dont Rémi Guilvin nous a parlé tout à l'heure, on a quelques exemples très clairs de neuroplasticité à l'âge adulte, et notamment cette expérience qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque où elle a été publiée, donc de McGuire et collaborateurs en 2000, travaillant en IRM sur des chauffeurs de taxi londoniens, et quiconque ici s'est baladé dans Londres en voiture, vous verrez que c'est un véritable, comment dire, spaghetti de route, et que donc des chauffeurs de taxi doivent apprendre en permanence, ce cheminement à travers ces routes de Londres, ce qui est le même cas à Paris, mais peut-être que les routes sont plus faciles parce que a montré qu'il y avait un gros réseau principal dans Paris et puis un réseau secondaire, ce qui fait qu'au niveau des représentations mentales, c'est un petit peu plus simple que Londres. Et là, en l'occurrence, ces auteurs ont travaillé en neuroimagerie structurale et ont travaillé sur une zone du cerveau qui s'appelle l'hippocampe, et l'hippocampe qui est fortement impliqué dans la mémoire. L'hippocampe est forte, c'est une zone temporo-médiane, fortement impliquée dans la mémoire. Et ce qu'ils ont montré ici, c'est qu'en comparant donc des chauffeurs de taxi à des conducteurs classiques, comme chacun d'entre nous, mais chauffeur de taxi, il en fait son métier et il conduit en permanence, ont montré que la taille, la taille de l'hippocampe postérieur, particulièrement de l'hippocampe postérieur, parce que l'hippocampe postérieur est dévolu à la mémorisation d'informations visio-spatiales, la taille des chauffeurs de taxi est plus importante que celle la taille de l'hippocampe postérieur chez les chauffeurs de taxi est plus importante que celle des chauffeurs classiques contrôle. De plus, la taille postérieure de l'hippocampe est corrélée avec le nombre d'années d'expérience du chauffeur. Plus il a d'années d'expérience, plus son hippocampe grossit. On a là un exemple très, très illustratif de ce qu'est la plasticité neuronale étudiée à travers la neuroimagerie. Donc ça, c'était pour vous donner une idée un peu de ce qu'est la plasticité de façon simple et directe pour répondre à la question. La question qui nous occupe fortement en psychologie du vieillissement, c'est de savoir cette neuroplasticité et plasticité comportementale, jusqu'où est-ce qu'on peut la mettre en œuvre, et deux, est-ce que ça peut être un bon support, une bonne ressource pour s'adapter au vieillissement et principalement pour contrecarrer les effets du vieillissement, c'est-à-dire, en d'autres termes, pour naturellement et spontanément, chez un individu, les retarder quelque peu ou fortement. Donc ça, c'est des questions qui occupent la recherche sur le vieillissement, dont on n'a pas encore la réponse. Alors, quelques indications. On a quelques indications quand même sur la neuroplasticité et quelques neuroplasticité dans le cerveau âgé et quelques indications qui sont relativement convergentes. Les expériences de Rosenzweig, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ont été reproduites chez des souris âgées. Ici, âgé, ça veut dire âgé de 18 mois. Nous dirons nos collègues spécialistes de la souris, si j'ose dire. Et effectivement, le fait de comparer des milieux enrichis et des milieux appauvris a un impact sur la plasticité cérébrale chez la souris âgée, notamment en termes de neurogénèse, d'arborisation dendritique, voire de réorganisation des réseaux. Et chez l'homme, on a quelques indications, donc là également convergentes. À la suite d'accidents vasculaires cérébraux, on observe des réorganisations neuronales, comme nous l'a montré tout à l'heure Rémi Guilvin sur une photo d'IRM. On sait que l'exercice physique, dans certaines expériences, a démontré qu'il peut retarder donc le phénomène de vieillissement du cortex préfrontal. Que l'entraînement cognitif, soit sensorimoteur, soit aux fonctions exécutives, à la distractibilité, soit une augmentation de la mémoire de travail, peut augmenter le volume et l'activité neuronale, et que cette augmentation corrèle avec la performance. Donc on a là un certain nombre d'indications qui permettent de penser que la plasticité neuronale continue au cours du vieillissement. Donc c'est une bonne nouvelle et qui nous donne une vision un petit peu plus optimiste donc, du vieillissement. L'autre découverte, et c'est celle-là qui est au centre un peu de mon exposé, puisque mon laboratoire travaille sur ce type d'observation, c'est une découverte un peu inattendue. En introduisant donc l'IRM dans les protocoles de psychologie cognitive et donc en associant, c'est-à-dire en ayant recours à l'IRM pour essayer de visualiser ce qui se passe dans le cerveau au moment où on fait une activité mentale, notamment souvent ce sont des activités de raisonnement, des activités de mémoire, eh bien on a observé ce pattern-là en comparant des sujets jeunes et des sujets âgés. L'activation dans le cerveau jeune est davantage localisée, plus importante qu'elle n'est dans le cerveau âgé dans les mêmes régions. Donc ici, je crois que c'est un phénomène de récupération en mémoire épisodique qui se situe dans cette partie ici droite du cerveau. Ce qu'on constate chez les sujets âgés, c'est une suractivation qui touche généralement l'hémisphère contralatéral. Donc en fait, ce que l'on observe, c'est une activation plus importante chez les sujets âgés, et cette observation était particulièrement inattendue. Lorsqu'on a fait ces expériences, on pensait trouver une sous-activation spécifique, c'est-à-dire dans la zone activée par les sujets jeunes, puisque les sujets jeunes ici servent toujours de contrôle aux sujets âgés, donc une sous-activation dans cette région-là. C'est effectivement ce qu'on observe, et que la région est moins activée. Mais on observe assez systématiquement que les sujets âgés recrutent d'autres régions neuronales. Donc on a pensé à une plasticité neuronale. On a vu que ce phénomène était robuste, qu'il pouvait être observé avec plusieurs tâches, qu'elles soient des tâches de mémoire, des tâches de langage ou des tâches de raisonnement. Donc un phénomène robuste que l'on observe souvent. Donc sont très vite arrivées des questions du type, est-ce que ce phénomène de redistribution neuronale, éventuellement pour certains auteurs de réorganisation, est-ce que c'est un phénomène compensatoire qui aide l'individu à lutter contre le vieillissement lui-même, ou est-ce que c'est un signe de dysfonctionnement? Est-ce que c'est parce que le cerveau se désorganise? Les psychologues en psychologie cognitive parlent de dédifférenciation, hein, c'est-à-dire que les régions cérébrales deviennent de moins en moins spécifiques, et puis donc on a une sorte de bruit qui se met en place dans le cerveau avec une distribution plutôt anarchique du phénomène. On a vu tout à l'heure que dans les phénomènes de compensation liés à des lésions cérébrales, on a aussi un recrutement, je crois que Rémi Guilvin nous a parlé de ça tout à l'heure, en nous montrant que la zone contralatérale pouvait être activée dans les phénomènes de compensation et de récupération. Ici, ce serait une sorte de réorganisation liée au vieillissement, entre guillemets, hein, naturelle et spontanée, qui ne serait pas la conséquence d'une lésion, hein, mais d'une diminution de l'activité du cerveau. Et en réaction, on aurait un phénomène naturel qui consisterait à réorganiser un petit peu les choses. Donc, depuis une dizaine d'années, cette observation nous donne une vision, allez, on va dire, un petit peu nouvelle dans la démarche scientifique qui s'est intéressée à la psychologie du vieillissement. Ce qu'on peut dire, c'est que dans les années 90, on était surtout focalisé sur les effets délétères du vieillissement et sur les phénomènes de vieillissement. Donc, l'idée, c'était d'identifier ce qui vieillit et d'essayer d'expliquer ce qui vieillit. Je pense qu'on a fait une bonne cartographie des fonctions cognitives qui sont affectées par l'âge et de celles qui sont préservées, on va en donner une image tout à l'heure. Mais ces observations, grâce à l'introduction de la neuroimagerie, hein, nous amènent à avoir une vision un petit peu différente du vieillissement, comme étant pas simplement un phénomène de perte, mais aussi un phénomène de gain lié. Alors jusqu'à quel point ? Et donc, grâce à des mécanismes neuronaux, et on peut dire parallèlement à ces mécanismes neuronaux, espère-t-on, des mécanismes cognitifs, hein, de réorganisation. Et donc, la recherche, c'est, plus particulièrement ces dernières années, grâce à l'introduction de la neuroimagerie, hein, puisque ces phénomènes de réorganisation cérébrale ne seraient pas visibles sans cet outil, et si on était resté simplement une science comportementale. Donc orientation de la recherche sur ces facteurs protecteurs. Et donc c'est devenu ces dernières années le véritable challenge là depuis 4-5 ans de la recherche sur de la psychologie cognitive. Donc perte versus gain, c'est-à-dire que le vieillissement maintenant est vu comme un phénomène donc, qui entraîne des pertes et un déclin ou un déficit plutôt assez inéluctable, bien entendu, et chacun peut s'en rendre compte, mais aussi des gains possibles, et grâce à quel mécanisme, grâce à des ressources, et la plasticité neuronale et cognitive pourrait être une de ces ressources. Alors essayons d'avoir une image de ce qu'est le vieillissement d'un point de vue cérébral et d'un point de vue cognitif, d'un point de vue cérébral et d'un point de vue comportemental. Et on va voir qu'il y a un parallèle entre un phénomène. La première chose que l'on constate pour aller vite tout de suite, forcément, il y a des choses qui vieillissent. Donc ça va se traduire par des modifications neuroanatomiques, ça va se traduire par des déficits comportementaux. Les modifications neuroanatomiques vont entraîner une perte du volume, une perte de la masse, certainement une perte des connexions synaptiques. Pas tant que ça une perte de neurones, finalement, semble-t-il. Et ce qu'on observe, et pour faire une synthèse et faire le rapprochement avec l'observation au niveau cognitif, c'est que le vieillissement du cerveau est hétérogène. En fait, les parties du cerveau semblent ne pas vieillir de la même façon, à la même vitesse et avec la même force. Et notamment, ce que l'on constate, c'est que les parties antérieures du cerveau, donc le cortex frontal et particulièrement le cortex préfrontal et la partie antérieure du cortex temporal, sont beaucoup plus affectées par le vieillissement. Donc un phénomène d'hétérogénéité avec une préservation beaucoup plus importante des parties postérieures du cerveau. Et on pourrait se demander, comme certains auteurs l'ont fait, est-ce qu'on peut pallier au déficit de l'avant par ce qui est maintenu dans les parties postérieures du cerveau. Donc ici, vous avez la corrélation entre l'âge et le volume du cortex. Donc plus elle est importante, donc déjà elle est négative, plus on avance en âge, plus on augmente en âge, et plus le volume descend. Et plus elle est importante, cette corrélation, et plus ça indique que le volume est altéré par le phénomène de vieillissement. Alors ce qu'on constate, et là aussi pour donner une image un petit peu rapide, c'est qu'il y a une correspondance assez étonnante entre cette hétérogénéité intra-individuelle, c'est-à-dire à l'intérieur d'un individu, du vieillissement du cerveau, et une hétérogénéité au niveau des fonctions cognitives. Ici, vous avez schématisé les fonctions qui vieillissent en vert, bleu, noir, gris, et plus dans des couleurs orangées et rouges, ce qui se maintient. Donc déjà, on observe quelque chose d'hétérogène. Il y a des fonctions cognitives qui sont généralement les fonctions qui impliquent fortement le cortex préfrontal, comme les fonctions de raisonnement, les fonctions de mémorisation épisodique, les fonctions de compréhension qui impliquent le cortex préfrontal, qui subissent un effet continu du vieillissement. Donc, comme on disait tout à l'heure, pour faire un rapprochement avec les tumeurs, vous voyez que le vieillissement cognitif attaque très tôt. Donc il attaque quand on est jeune, c'est-à-dire à partir de la 20e année. Et ce qu'on constate en termes d'hétérogénéité, c'est qu'un certain nombre de fonctions, elles se maintiennent avec l'âge et ont même tendance à augmenter. Alors c'est quoi ces fonctions? Ces fonctions, c'est ce qu'on appelle classiquement les fonctions de connaissance, c'est-à-dire les connaissances, qu'on appelle également la mémoire sémantique. Pour information rapide, il y a un consensus à l'heure actuelle pour dire que le cerveau humain et le fonctionnement cognitif humain dans le domaine de la mémoire est composé de 5 systèmes. Et notamment, on distingue assez facilement, et on peut le distinguer nous-mêmes dans nos activités quotidiennes, ce qu'on appelle la mémoire épisodique, qui est la mémoire de nos propres souvenirs dans lesquels on est inclus, c'est-à-dire ce que j'ai fait hier soir, ce que j'ai fait au mois d'août dernier, et je suis capable de raconter une histoire sur ce que j'ai fait. Cette mémoire-là nécessite ce qu'on appelle, entre guillemets, une sorte de voyage mental dans le temps. Je suis capable de retourner sur les épisodes de ma vie, dans mes souvenirs, de les visiter, de pouvoir les discuter, etc. Et on oppose cette mémoire à la mémoire sémantique, qui est la mémoire des connaissances. C'est-à-dire qui est une mémoire sur « je sais », mais je ne sais plus dans quel contexte j'ai appris les choses. Je sais, par exemple, que Paris est la capitale de la France. J'ai dû l'apprendre un jour où j'étais très, très jeune, mais je ne suis plus capable de raconter un souvenir qui soit lié à cet apprentissage. Ce qu'on appelle la sémantisation des souvenirs, donc migration des souvenirs dans le cortex. Je passe les détails, mais on dissocie très bien. Ce qui se passe au moment du vieillissement, enfin tout au cours du vieillissement, c'est que cette mémoire sémantique, cette mémoire des connaissances se maintient, voire augmente, alors que la mémoire des souvenirs personnels décline, les capacités de raisonnement déclinent. Un auteur a dit, et il a conceptualisé ce phénomène de vieillissement sur les fonctions frontales, comme étant le vieillissement des fonctions fluides, c'est-à-dire les fonctions qui nous permettent de faire face à la nouveauté, contrairement aux fonctions qui sont basées sur des connaissances acquises et qui sont nos connaissances culturelles, qui, elles, se maintiennent très bien avec l'âge. Donc, un certain nombre d'auteurs peuvent se demander, et des travaux sont réalisés dans le sens-là, qui ne donnent pas toujours les résultats attendus, mais dans lesquels on espère montrer que s'il y a phénomène de protection liée au vieillissement, les sujets âgés vont davantage s'appuyer sur ce qui est préservé pour pallier au phénomène de vieillissement. Et d'une certaine façon, effectivement, on a l'impression, hein, dans la vie de tous les jours, qu'on peut s'appuyer sur nos connaissances culturelles pour essayer de résoudre des problèmes nouveaux en faisant appel à des connaissances déjà acquises depuis longtemps et déjà plutôt installées. Donc, premier point, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une hétérogénéité cérébrale, une hétérogénéité comportementale dans le vieillissement. C'est une observation. La deuxième chose, quand on parle de l'endroit où je parle, donc qui est plutôt l'endroit du vieillissement normal, en opposition d'un vieillissement dans lequel un certain nombre de pathologies neurodégénératives sont associées, la plus connue étant la maladie d'Alzheimer. Donc, quand on parle de vieillissement normal, on a l'impression, à la suite d'un certain nombre d'observations, qu'au moins dans une première partie du vieillissement, c'est-à-dire on va dire jusqu'à 75, 80 ans, le vieillissement est de nature, entre guillemets, plus fonctionnel que structurel. C'est-à-dire que lorsqu'on est face, par exemple, on a un exemple, face à des troubles de la mémoire épisodique, qui est ce qu'on appelle l'amnésie entérograde classique qu'on va observer dans la maladie d'Alzheimer, on n'a pas l'impression d'être face à une vraie amnésie. Ça ressemble à de l'amnésie, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Si on intervient pour donner un support environnemental, une sorte de béquille, une sorte d'aide à la personne qui est en difficulté, on s'aperçoit que généralement, jusqu'à un certain âge, on peut récupérer cette difficulté. Donc là, il y a une sorte de plasticité comportementale dans le vieillissement normal qu'on n'observe peut-être plus dans le vieillissement pathologique. Et donc, on a l'impression que les difficultés cognitives des sujets âgés vieillissant normalement, et là, je schématise beaucoup, sont davantage liées à des manques de ressources, à des manques d'énergie, comme par exemple des ressources attentionnelles ou les ressources de mémoire de travail sur lesquelles on reviendra, et donc la possibilité que ces atteintes soient récupérables et que ce soit ce qui marque la différence avec le vieillissement cognitif. Un bon exemple de cette capacité de récupération dans le vieillissement normal en neuroimagerie fonctionnelle a été apporté par certains auteurs dans deux expériences dans lesquelles on a regardé l'activation préfrontale chez des sujets jeunes et chez des sujets âgés au cours d'un encodage, c'est-à-dire d'une mise en mémoire d'informations. Je passe les détails sur le protocole exact, mais en tout cas, on a opposé deux situations expérimentales, une situation dite superficielle où très peu d'aide était donnée au sujet et donc devait se débrouiller tout seul, à une situation où une aide lui était fournie sous la forme ici d'une consigne qui l'orientait vers un traitement dit profond ou élaboré, un traitement sémantique dont on sait que lorsqu'on rentre dans ce type de traitement à l'encodage, ça favorise la mémorisation. Alors qu'est-ce qu'on observe ? On observe que chez les sujets jeunes, on a un certain niveau d'activation. Ce niveau d'activation est notre niveau contrôle, hein, puisque les groupes jeunes sont les contrôles. Et ce que l'on voit, c'est que lorsque le sujet âgé est livré à lui-même, le niveau d'activation est beaucoup plus faible. Ce que l'on constate ici, lorsque l'encodage est soutenu avec une aide. On a toujours un niveau d'activation qui augmente chez les sujets âgés, mais qui augmente beaucoup plus fortement chez les sujets âgés, avec une interaction significative indiquant que les sujets âgés ont récupéré leur retard là en situation. Alors c'est cet élément-là qui nous fait dire que le vieillissement normal est de nature davantage fonctionnelle que structurelle. On est dans une sorte de dynamique. Et je disais, ces problèmes, et les neuropsychologues le savent, qui travaillent sur les pathologies neurodégénératives, que c'est certainement cette possibilité, lorsqu'un support environnemental est donné, à récupérer la performance, et presque une performance équivalente aux jeunes âgés, qui marque la principale différence comportementale entre, par exemple, une amnésie dans le vieillissement normal, une amnésie entre guillemets due à un déficit de ressources, plus qu'une amnésie structurelle dans la pathologie. Donc ici, on a l'exemple de trois groupes, c'est-à-dire des sujets âgés non atteints de démence de type Alzheimer, donc de ce que j'ai appelé le vieillissement normal, entre guillemets, une maladie d'Alzheimer débutante, une maladie d'Alzheimer de plus de 3 ans, et on regarde l'impact d'indices donnés à la récupération en mémoire, c'est-à-dire de plus en plus de support, de plus en plus d'aide sous forme de consignes. Ce qu'on constate, c'est que les sujets âgés normaux bénéficient très clairement de ce support. En début de maladie d'Alzheimer, il y a un bénéfice, mais il faut que le support soit très fort. Et cette possibilité de récupérer n'existe plus lorsque la maladie s'est installée. D'accord ? Donc c'était pour donner ici aussi une image de ce qu'est le vieillissement normal par rapport au vieillissement pathologique. L'autre élément qui va marquer le vieillissement normal et qui nous renvoie à la notion de plasticité, c'est la notion de sensibilité individuelle. Lorsque l'on observe des échantillons de sujets donc âgés que l'on compare à des sujets jeunes, il n'est pas rare, même lorsqu'on travaille sur des épreuves ou des tâches cognitives qui sont très clairement et significativement, classiquement, en moyenne, affectées par le vieillissement, de trouver des groupes qui peuvent être importants dans certaines études, qui peuvent aller jusqu'à 30% de personnes pour qui les fonctions qui vieillissent ne vieillissent pas. Et donc là, forcément, ça interroge cette sensibilité individuelle. Donc là, on n'est plus dans une hétérogénéité intra-individuelle, mais inter-individuelle. Par quoi est-ce qu'elle s'explique? Et donc, comme dans beaucoup de pathologies, mais ici appliquées au vieillissement, est-ce qu'on peut découvrir les mécanismes naturels qui, chez ces individus-là, leur ont permis de maintenir jusqu'à un certain âge, on va dire jusqu'à un certain âge, parce que ce qui se passe dans le très très grand âge est encore autre chose, des mécanismes protecteurs, et donc on peut se demander si la réorganisation neuronale et cognitive l'est. Et donc on a introduit un concept pour expliquer ces différences individuelles, donc un concept qui fait couler beaucoup d'encre et sur lequel c'est une hypothèse en fait à l'heure actuelle, une sorte de modèle hypothétique sur lequel beaucoup de psychologues cognitivistes travail pour essayer de voir si l'hypothèse est vraie. Il y a un certain nombre d'éléments qui vont dans ce sens-là et nous nous sommes mis aussi depuis quelques années à travailler sur ce concept. C'est l'idée de réserve, qui soit alors une réserve neuronale ou une réserve cognitive. C'est l'idée que l'expérience tout au long de la vie, les expériences que l'on vit, qu'elles soient en termes d'éducation, soit en termes d'expérience de loisirs, sans finalité, soit les expériences professionnelles, soit encore les activités physiques, vont agir au niveau cognitif sur un certain nombre de ressources médiatrices de plusieurs comportements. Et ces ressources médiatrices sont des ressources centrales, comme la notion de mémoire de travail. Si vous m'interrogez plus tard, je pourrais essayer de détailler ici, on ne va pas le faire, sur le contrôle exécutif, c'est-à-dire sur un certain nombre de fonctions médiatrices communes à plusieurs fonctions cognitives. Donc plusieurs fonctions cognitives, on entend par là fonction de mémoire, fonction de langage, fonction de raisonnement, fonction de compréhension. À la base de toutes ces fonctions, il y a une sorte d'espace mental qui fonctionne, qui a été mis en évidence depuis une quarantaine d'années, qui s'appelle la mémoire de travail, qui fait intervenir le cortex préfrontal et qui fait intervenir un certain nombre de fonctions de régulation et de contrôle qui sont communes à toutes ces fonctions. Des capacités de flexibilité mentale, des capacités de mise à jour de l'information. Lorsque vous m'écoutez, vous êtes obligé d'effacer ce que j'ai dit tout à l'heure pour introduire de nouvelles informations dans cet espace mental. lorsque je vais changer, passer de la neuroimagerie au comportement, vous êtes obligé de refocaliser votre attention. Et tout ça se passe dans cet espace mental qu'on appelle la mémoire de travail et qui est situé préférentiellement dans le cortex préfrontal. Donc on pense que cette... Alors il s'agit là d'une ressource cognitive. Quand cet espace mental fonctionne bien, il va entraîner un bon fonctionnement des fonctions cognitives qui en dépendent, donc d'autres capacités. Et donc on pense que le fait d'avoir entraîné tout au long de sa vie, par ses différentes activités, nos comportements, nos connaissances, notre activité mentale, va entraîner une sorte de réserve, considérant ça comme un concept très hypothétique et abstrait, qui va se traduire dans ses ressources centrales. Et donc ces ressources centrales vont avoir... en fin de période, c'est-à-dire dans la phase de vieillissement, mais peut-être tout au long de la vie, des capacités donc de créer une sorte de réserve à la fois neuronale et cognitive qui va ralentir les effets délétères du vieillissement. Et donc ça pourrait donner des trajectoires de vieillissement. On pourrait donc reconnaître des sujets qui ont une réserve positive forte, une réserve cognitive, pardon, forte et opposé à des sujets avec réserve moins importante. Et donc, il y a effectivement un certain nombre de travaux, je les cite pas ici, mais je vous donne simplement l'idée de ce que pourrait être la trajectoire individuelle, c'est-à-dire qu'on voit ici qu'entre ces deux courbes, hein, entre ces deux trajectoires, il y a une interaction. Ça veut dire que le vieillissement, forcément, la réserve est moins forte, donc il démarre de moins haut, mais l'écart ne fait que s'accentuer entre les deux groupes. Et certain nombre de travaux ont en effet confirmé, notamment des travaux qui ont porté sur le bagage scolaire. On a exactement ça, c'est-à-dire que les sujets qui ont un niveau scolaire et donc ont été moins confrontés à l'environnement scolaire, eh bien, sont plutôt dans cette courbe-là, démarrent de plus bas forcément, mais ce qui est important pour le phénomène du vieillissement, c'est cette interaction. C'est-à-dire qu'en fait, la courbe ici descend moins vite que celle-là. On aurait pu penser... s'il n'y avait pas de phénomène de réserve, avoir des courbes parallèles, hein, ce qui n'est pas le cas. Autre image, autre représentation importante, démontrée dans l'étude PACWID du Sud-Ouest, donc une étude longitudinale, qui a montré que l'expression clinique de la maladie d'Alzheimer chez les sujets à forte réserve est retardée de 7 à 8 ans. C'est-à-dire, on a pu montrer très clairement que la dégradation du cerveau est équivalente, mais l'expression clinique, c'est-à-dire le fait d'être diagnostiqué par un neurologue comme atteint de la maladie d'Alzheimer, est retardée parce que ça ne s'exprime pas dans le comportement. Donc là aussi, phénomène de plasticité et phénomène de compensation, c'est-à-dire que la réserve neuronale et cognitive viendrait permettre de retarder le phénomène de pathologie comportementale, bien qu'au niveau cérébral, la pathologie existe. Après, la mauvaise histoire, c'est qu'une fois que l'expression clinique apparaît, eh bien la descente est beaucoup plus rapide. Mais c'est un bon exemple de ce que pourrait être la réserve cognitive. Donc je vous disais, touche la mémoire de travail, je reviens pas dessus. Donc la mémoire de travail est une sorte de médiation cognitive, vous voyez ça comme un espace mental nécessaire au fonctionnement des fonctions cognitives supérieures, et notamment qui fait appel à des fonctions de contrôle et de régulation. Et on pourrait penser donc que l'entraînement et la réserve, du point de vue cognitif, va agir sur ces espaces médiateurs. Alors, dans notre laboratoire, donc là aussi une doctorante, un petit peu de temps, non, c'est ça?
Quand je me mets debout, c'est jamais bon.
D'accord, bon, je termine. Et ce que l'on observe, c'est que lorsque l'on compare des sujets à mémoire de travail importante avec des sujets à mémoire de travail, on a généralement ça. Donc on le voit au niveau du comportement, hein, donc les sujets à forte réserve ont un score presque équivalent aux jeunes, et ici ça diminue. On peut le voir au niveau du cerveau, hein, c'est un phénomène... les potentiels évoqués en électrophysiologie. Et Ce que l'on observe aussi, ce sont chez les sujets âgés à fort potentiel des réorganisations, des réorientations stratégiques à l'encodage qui effectivement s'appuient sur ce qui fonctionne bien. Donc voilà là, des stratégies spontanées d'encodage chez les sujets âgés. Donc faire appel à l'image mentale qui est très coûteux en attention, en énergie cognitive, ou faire appel à des phrases, les sujets âgés vont s'appuyer davantage sur des phrases, sur des choses qui sont naturelles. Des expériences d'entraînement, quand elles portent sur les espaces médiateurs comme la mémoire de travail, et là, c'est ce qui est figuré dans les histogrammes, ce sont les gains par rapport au groupe contrôle. On voit que lorsqu'on entraîne la mémoire de travail, on a un gain sur la mémoire de travail, mais on a aussi un gain, c'est-à-dire un phénomène de transfert sur un certain nombre de fonctions indépendantes de la mémoire de travail. Donc on a un gain spécifique, mais aussi un transfert. Ça, je vous en ai déjà parlé, donc c'est la réorganisation neuronale. Je vous l'ai montré ici qu'elle était très robuste et qu'on la retrouvait dans différentes tâches. C'est-à-dire que les sujets âgés font appel à des parties contralatérales du cerveau. Est-ce que c'est compensatoire? Effectivement, les résultats semblent montrer que chez les sujets très performants, on observe cette bilatéralisation qui ne s'observe pas chez les sujets âgés faiblement performants et qui ne s'observe pas chez les jeunes. Donc, un élément qui semble montrer que c'est compensatoire. Donc, on a travaillé nous-mêmes là-dessus en utilisant un indice de latéralisation en électrophysiologie, donc qui calcule, si je puis dire, l'amplitude des potentiels évoqués à gauche et à droite du cerveau chez des âgés et chez des jeunes. Et donc, on calcule un indice de latéralisation qui doit, cette soustraction doit donner un résultat inférieur chez les jeunes. C'est exactement ce qu'on observe. Et on observe également qu'il est corrélé à la capacité de mémoire de travail. C'est-à-dire, plus on bilatéralise et plus on active, plus la mémoire de travail est performante. Voilà, le reste, c'est la même démonstration en IRM. Et donc, ce qu'on peut dire pour finir en conclusion, c'est que le vieillissement entraîne des modifications corticales qui ont des conséquences en termes de déficit cognitif. Mais semble-t-il, les données actuelles semblent montrer qu'un système se met en place sous la dépendance de l'expérience vécue tout au long de la vie et que ce système entraîne une redistribution des stratégies cognitives et une redistribution neuronale qui permet de réduire ou de ralentir les phénomènes de vieillissement. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Michel. C'est une excellente conclusion de notre journée de travail aujourd'hui. Juste pour les étudiants en licence, je ne sais pas si vous savez, mais au sein de laboratoire que je dirige, Marcelo Solinas et Nathalie Thierrier travaillent sur l'environnement enrichi qu'a montré au début Michel Ezengrini. Et parmi les résultats que nous montrons, c'est que être élevé dans un environnement enrichi non seulement augmente la mémoire et la neurogénèse, mais protège aussi contre certaines agressions extérieures, y compris pharmacologiques, à savoir que des souris élevées en environnement enrichi, quand vous leur donnez une toxine qui normalement produit la maladie de Parkinson, elles sont beaucoup plus protégées que des souris élevées en environnement standard. Et quand vous leur donnez des drogues dites dures, bien qu'on n'aime pas du tout ce mot, telles que la cocaïne et l'amphétamine, elles réagissent beaucoup moins à ces drogues que des souris élevées en environnement standard. Et Nathalie Thierrier, présente ici, a montré que cet environnement module même la structure et la réponse du cerveau à l'échelle moléculaire. Bon, pour revenir à ce qu'on disait là, normalement, si vous êtes là, c'est que vous allez avoir une belle réserve cognitive, si vous êtes en train de la construire, et pas seulement par votre présence ici, c'est parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé par cultiver votre cerveau et le bien le remplir. Mais, comme disait Spinoza, à savoir accru, peine accrue. À savoir, on sera peut-être protégé contre la maladie d'Alzheimer, mais toi, moi, Martin, avec le rythme et d'autres, avec le rythme du travail qu'on a, est-ce qu'on est mieux protégé contre les maladies cardiovasculaires, le stress, la dépression, l'insomnie, l'anxiété? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des questions? Martin, justement.
Pas la dépression, parce qu'avec la joie que produit faire ce qu'on fait, donc il n'y aura pas de dépression. Les autres peut-être, mais pas de dépression. Ouais. Donc, juste une question sur un élément qui n'était pas peut-être mentionné, mais qui me paraît très important par rapport à l'effet possible de la réserve cognitive. Je voudrais parler un petit peu, ou que tu parles de métacognition. Donc, pour nos étudiants, peut-être, puisque effectivement on a un public très jeune, quand je parle de métacognition, je suis en train de parler sur les processus cognitifs de ce que je sais ou je crois savoir. En quelque sorte, si je demande à mademoiselle quelle est la possibilité d'avoir un 20 sur 20, si je vous demande, je vais passer un examen sur ma conférence, vous allez dire, je pense que j'aurai 15 ou 0, je ne sais pas. Là, vous portez un jugement métacognitif sur ce que vous avez. Donc, ce qui est intéressant donc, là-dedans, c'est qu'on pourrait se demander si le fait d'avoir une réserve cognitive augmentée va jouer sur la métacognition des sujets âgés. On pourrait dire que non, que même s'ils ont une réserve cognitive, le fait d'être âgé leur fait juger ou penser qu'ils ne sont pas quand même en mesure de faire la tâche, puisqu'il y a une corrélation généralement inverse. Moins on sait, plus on croit savoir. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que tu as des résultats ou des analyses par rapport à métacognition ?
Sur la métacognition, si vous voulez, dans d'autres exposés, j'ai l'habitude de la rentrer dans les processus de contrôle et de régulation. Hein, donc, je pense que c'est une très, très bonne remarque. C'est une particularité de la cognition humaine que de pouvoir avoir une réflexion, une conscience sur soi-même, et donc d'être capable de faire des jugements prédictifs sur soi. Au-delà du jugement prédictif, lorsqu'on est capable de faire un jugement prédictif, ça veut dire qu'à un moment donné, on est capable de prendre conscience, pour schématiser et aller vite, de nos difficultés, mais de savoir aussi dans quel domaine on est fort, dans quel domaine on a du mal, et donc en termes de régulation, ça va permettre à l'enfant, par exemple, petit à petit, en prenant conscience de ses aptitudes et de jusqu'où il peut aller, etc., de corriger lui-même, donc d'avoir un contrôle qui va réguler son comportement. Pour donner une image très simple, si je constate que je suis très fort en français, en orthographe, dans les niveaux culturels de ce type-là, mais par contre que j'ai des difficultés en mathématiques, bah, très vite, je vais travailler davantage les mathématiques. Voilà. Ça, c'est de la métacognition. Donc, je suis capable d'avoir un jugement sur mes difficultés et je suis capable de corriger. On peut penser que ça agit tous les jours. Et donc, une bonne question, la métacognition pourrait être cet élément médiateur qui intervient forcément dans toutes les autres fonctions cognitives et sur lesquelles la réserve pourrait jouer. Alors, on étudie ça dans notre laboratoire spécifiquement. On étudie plus l'aspect mémoire, donc on appelle ça, dans ce cas-là, la métamémoire, c'est-à-dire le recul qu'on a sur sa propre mémoire. Et là, on est vraiment face à un phénomène complexe. Ce que l'on constate, c'est que, globalement, certains aspects de la métamémoire sont altérés par l'âge, d'autres se maintiennent très bien. Par contre, le processus de contrôle qui permet, à la suite du jugement, d'intervenir pour corriger son propre comportement, celui-là est fortement affecté par l'âge. On voit les sujets jeunes mettre en place des stratégies de correction très très vite, spontanément, sans qu'on leur ait dit, alors que les sujets âgés ont beaucoup de mal ou les mettent beaucoup plus tard. Et cette difficulté à déclencher les stratégies de correction, on a montré qu'elles étaient fortement liées aux capacités exécutives du sujet, c'est-à-dire à ses capacités de mémoire de travail dont on parlait ici. Donc on peut penser que la réserve chez le sujet âgé ne vient pas corriger le jugement, celui-là reste actif, c'est-à-dire je suis toujours capable de voir que je ne fonctionne pas bien dans tel et tel domaine, ça je suis un bon prédicteur de moi-même, mais par contre je n'ai plus la capacité, la force énergétique ou cognitive de corriger.
Et le regard extérieur joue un rôle là, dans le sens où si on donne le même exercice, par exemple à des étudiants, je ne sais pas pour le sujet âgé, mais je sais que ça a été fait avec des jeunes dans une université américaine. On leur dit, attention, ceux qui vous ont précédé ont tout de même eu du mal. On n'a pas les mêmes résultats que quand on donne l'examen sans rien dire. Mmh. Et donc je suppose aussi que le regard extérieur qu'on porte à nos sujets âgés les renvoie à leurs propres difficultés.
Alors effectivement, pour parler d'un domaine proche, c'est ce qu'on appelle en psychologie cognitive la menace du stéréotype, hein, c'est-à-dire les représentations collectives qu'on peut avoir. Et par exemple, j'aurais pu prendre cet exemple pour vous montrer l'hétérogénéité du vieillissement et vous montrer que dans certaines situations, ce qu'on mesure en termes de vieillissement est beaucoup moins important que dans d'autres situations. Si vous dites à des sujets âgés, quand ils sont en train d'apprendre une liste de mots, une liste d'images ou essayer de se souvenir d'un film, vous allez être comparé à des jeunes, vous faites chuter la performance. Si vous leur dites vous allez être comparé à des patients qui présentent une pathologie neurodégénérative qui touche spécifiquement la mémoire, vous augmentez leur performance de façon très nette. Donc ça, c'est François Rigalot qui travaille là-dessus et qui en a refait la démonstration très claire chez les sujets âgés.
Ce qui est assez troublant dans ce que vous démontrez, je peux peut-être me tromper, c'est qu'il y a une incidence entre le milieu socio-culturel et le vieillissement. Vous parlez des gens qui ont une éducation, donc on suppose que sous-entendu, il peut y avoir, même si maintenant voilà, tout le monde a accès à l'éducation, mais là, il y a un problème aussi de société par rapport au milieu socio-culturel, parce que des gens qui n'ont pas d'éducation, donc qui sont d'un milieu socio-culturel pas assez élevé, sont peut-être...
Vous soulevez en fait une question très complexe, parce que le problème en fait de la psychologie cognitive, c'est qu'on va mesurer les performances sur un certain nombre d'épreuves qui sont des épreuves classiques. Alors ce qu'on peut dire, et si je limitais mon discours, je dirais, quand on a eu des expériences plus longues en termes d'éducation, mais là je parle d'éducation scolaire, donc on n'a pas encore de travaux sur l'impact d'autres choses. Je veux dire, ça nous fabrique une réserve qui va nous permettre de ralentir le vieillissement sur des épreuves. Je sais pas si vous voyez, c'est des épreuves de mémoire, c'est des épreuves scolaires, en fait. Donc, ce qu'il faudrait savoir, c'est si les autres expériences de la vie, le fait d'être soumis en contact à des moments donnés, à des expériences différentes qui peuvent ne pas être scolaires, qui peuvent des interactions sociales de différents types, et même sans aller à l'école, nous fabrique une réserve pour être in fine adapté à la vie et maintenir quoi, c'est-à-dire un niveau d'adaptation à la vie qui n'est pas obligatoirement la vie des sociétés dans lesquelles nous on se développe, qui sont fortement, etc. etc. C'est-à-dire quand on est âgé, peut-être pas nécessaire forcément d'avoir une bonne mémoire ou un bon raisonnement pour résoudre des problèmes mathématiques ou des choses comme ça auxquelles on est plus confronté, par exemple.
Ou alors peut-être ce qui peut aussi retarder le vieillissement, c'est la sociabilité, la vie avec les autres.
Alors là, ce que pensent un certain nombre d'auteurs, ce qui est intéressant et que je n'ai pas montré là, mais qui sera certainement le prochain volet qui sera très développé sur la compréhension de la neuroplasticité et de la plasticité dans le vieillissement, c'est de dire on observe des phénomènes naturels de réorganisation cérébrale, c'est-à-dire on ne les a pas provoqués, on fait de la neuroimagerie, on sumelle sur, puis on s'aperçoit que les sujets âgés utilisent beaucoup plus l'hémisphère contralatéral. La question importante, c'est peut-on créer cette réorganisation par l'entraînement? C'est-à-dire, si on intervient chez le sujet âgé, est-ce qu'on va créer cette image IRM plus distribuée que l'on observe chez le sujet âgé? Donc ça, c'est la prochaine étape. Et ce que pensent certains auteurs, pour revenir à ce qu'on disait, c'est l'idée que pour pouvoir augmenter ces phénomènes de réorganisation qui finalement ralentissent un peu le vieillissement, il faut impacter non seulement les fonctions cognitives, mais les fonctions sociales et les fonctions d'interaction sociale. Et il y a un certain nombre de résultats là, très récents qui comparent des groupes de sujets soumis à un entraînement basé sur l'interaction sociale, basé sur l'humour, basé sur la cognition, c'est-à-dire résolution de problèmes, mémorisation, mais aussi les interactions qui sont des interactions plutôt qui mettent les gens plutôt dans un état de joie avec des interactions sociales, ont beaucoup plus d'impact que, par exemple, entraîner la mémoire devant un ordinateur individuellement. Donc c'est plus la richesse de la vie, en fait, la complexité de la vie qui semble faire réserve là dans ce cas-là.
Une dernière question ? Non ? Bah écoutez, on va peut-être, donc, s'il n'y a pas une dernière question, clôturer cette journée. Je remercie l'Espace Mendès France et surtout Anne Bonnefoy qui a tout organisé. C'était une très, très belle journée pour ceux qui l'ont suivi depuis ce matin, même ceux qui ont été que cet après-midi. On va passer de l'histoire des neurosciences, un peu de philosophie, d'épistémologie, aux aspects cellulaires et moléculaires et des réseaux dans des modèles animaux, aux perspectives de l'imagerie, jusqu'aux aspects de plasticité cérébrale. Mais je trouve que c'était un très très beau programme. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Voilà.